On va maintenant laisser la place à la méditation de la Bible avec Raymond-Pierre Fagnard qui embraye sur le sujet des marais déjà. La semaine dernière, tout cet automne, on va parler du discipulat, être un disciple de Jésus-Christ. J'en dis pas plus. Raymond-Pierre, c'est à toi.
Voilà, ce matin, on débute une nouvelle thématique d'automne, une thématique qui s'appelle « Suis-moi ». Dans le but de cette série, nous allons regarder, nous allons voir ce que ça veut dire réellement suivre Jésus et ce que ça veut dire réellement être son disciple. Alors j'ai dénombré 12 fois « suis-moi » dans les évangiles, 12 appels « suis-moi » dans les évangiles. Il y a deux fois aussi « suivez-moi ». Le terme employé pour cette expression signifie « accompagner », « venir après », suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, se joindre comme disciple, devenir ou être un disciple ou encore faire partie de son groupe. Je crois qu'il est vital pour l'Église d'aujourd'hui de réaliser ce qu'est être un disciple de Jésus. Et ce sera tout l'enjeu de cette série. Ce matin, on va regarder à ce que signifie répondre à l'appel de vivre en disciple. Pour ça, on va regarder dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 23 à 25. Alors je vais vous raconter un peu le contexte de ce passage. Jésus, il est avec ses disciples et il va les interroger pour savoir ce que eux... Alors tu ne peux pas afficher tout de suite le texte s'il te plaît, reviens en arrière, ouais, merci. Jésus dans ce contexte va demander aux disciples, mais qu'est-ce que vous pensez de qui je suis? Il va les interroger pour savoir ce que les gens pensent de lui et ce qu'eux-mêmes pensent de lui. Et les disciples vont confesser que Jésus est pour eux l'envoyé de Dieu, le Messie tant attendu, celui qui devait libérer son peuple. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la croyance populaire de l'époque concernant le Messie, ils espéraient un roi Messie tout à fait terrestre et politique, un roi dont la tâche prioritaire serait de vaincre tous les ennemis d'Israël, de les libérer du joug de Rome. Et ces derniers, ils s'attendaient à un libérateur, à un roi qui renverserait le pouvoir en place et qui installerait son royaume. Mais la réponse de Jésus va leur donner, que Jésus va leur donner, elle est différente. Différente de ce à quoi ils pensaient, différente de ce à quoi ils s'attendaient. Il va leur expliquer qu'il va devoir souffrir, qu'il va devoir donner sa vie, qu'il va devoir être rejeté par les religieux, mais que finalement, on l'a chanté ce matin, le troisième jour, il ressusciterait. Amen. Et c'est à la suite de ce discours que Jésus va expliquer à ses disciples comment répondre à son appel à le suivre. Le message de ce matin, c'est peut-être pas celui où je vais entendre des « Amen » à chaque fin de phrase, mais je crois qu'il est vital, qu'il est essentiel pour ceux qui veulent dire « Je réponds à son appel à le suivre ». Il est vital pour ceux qui veulent répondre à cet appel du « suis-moi ». Premier point ce matin, suivre Jésus, c'est lui laisser les commandes de nos vies. Suivre Jésus, c'est lui laisser les commandes de nos vies. On commence la lecture. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? » J'ai pu partager en substance ce message avec les aînés et puis le groupe arménien il y a quelques temps. Mais vraiment, le Seigneur a déposé sur mon cœur de, que ce soit quelque chose pour l'épi, que ce soit un appel pour l'épi à suivre Jésus. Jésus dira, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » En grec, le mot « renoncer », c'est « aparneomai » qui signifie « nier, renier, refuser, renoncer ». Et en fait, c'est oublier nos propres vues, ne plus voir et ne plus chercher notre propre intérêt. La transcription parole vivante de ce passage nous parle de renoncer à nos droits sur nos propres vies. C'est dire non à notre « moi » personnel, notre moi propre, non à notre volonté, à la laisser derrière nous et dire oui à Dieu en le laissant diriger nos vies. Ce renoncement est difficile, pourtant c'est la seule façon de marcher en disciple de Christ. Personne n'est excusé, personne n'est exempté de cet appel. L'expression « si quelqu'un » veut tout simplement dire « celui qui veut être mon disciple » doit renoncer à lui-même. si quelqu'un, celui qui veut être mon disciple, doit renoncer à lui-même. Et notre vie doit servir à l'accomplissement de ses plans. Notre vie doit servir à l'accomplissement de ses plans. Et Jésus va nous laisser trois exemples de ce que représente le suivre. Et on voit ça dans Luc 9, 57 à 62. Le premier appel de Jésus, c'est que Jésus seul doit être notre zone de confort. Commence la lecture. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Dans ce premier exemple, Jésus n'appelle pas cet homme, mais c'est lui qui désire suivre Jésus. Et la réponse de Jésus va rappeler à cet homme qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'y a pas de zone confortable à suivre Jésus. Jésus rappellera à ses disciples que puisqu'il a été rejeté, puisqu'il a souffert, eux aussi seront rejetés et souffriront. Aucun homme, conscient ou normal d'esprit, ne peut désirer cela naturellement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de souffrir pour le plaisir de souffrir ? D'accord, ça me rassure. Donc il n'y a personne qui fait ça de son propre choix. Le christianisme, ce n'est pas « viens à Jésus et tout va rouler comme sur des roulettes ». Ça, c'est ce qu'on appelle le faux évangile de prospérité. Mais le christianisme ne dit pas « viens à Jésus et tout va rouler comme sur des roulettes ». Mais lorsque l'on fonde notre vie sur Jésus, sur le rocher, la tempête peut venir et elle va venir. Nous tiendrons bon car nos fondements seront solides. Jésus ne nous promet pas une vie en dehors de la souffrance, mais il nous promet sa présence au sein de notre souffrance. Jésus ne nous promet pas une vie en dehors de la souffrance, mais il nous promet sa présence au sein de notre souffrance. Attention à nos recherches de vie confortable, d'église confortable. Suivre Jésus, c'est renoncer au bien-être et à la facilité que peut offrir la vie. S'il y a une chose que j'ai retenue de Michel, qu'il m'a dit depuis avant que j'arrive à l'épi, c'est que quand il y a un chemin facile et difficile, choisis le difficile. Parce que là, tu vas pouvoir dépendre de la grâce et de la puissance de Dieu. Attention à nos recherches de vie confortable, d'église confortable. Suivre Jésus, c'est renoncer au bien-être et à la facilité. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une mentalité où dès que quelque chose ne va pas, ben on veut tout changer. Ma vie va pas, alors je veux changer de vie. Mon travail va pas, alors je veux changer de travail. Mon conjoint, ça va pas, alors je veux changer de conjoint. On rigole, mais c'est la mentalité d'aujourd'hui. C'est dès que quelque chose ne va pas, je balaye et je passe à autre chose. Certains changent d'église parce que la couleur de la tapisserie ne leur plaît pas. Certains veulent changer d'église parce que le style de musique ne leur va pas. Combien de chrétiens papillonnent d'église en église simplement parce que Jésus n'est pas leur zone de confort ? Combien de chrétiens changent d'église parce que Jésus n'est pas leur zone de confort ? Jésus nous a appelés et placés dans des endroits bien particuliers pour nous faire grandir, pour nous faire dépendre de lui. Chercher à fuir, c'est vouloir reprendre les rênes de nos vies que nous avons confiées à Jésus. C'est vouloir reprendre le contrôle. On a vu que Jésus était notre zone de confort, doit être notre zone de confort. Maintenant, nous allons voir que Jésus seul doit être notre sécurité. Il dit à un autre : « Suis-moi. » Il répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Alors, il y a plusieurs interprétations à ce passage. La première nous dit que le père était déjà mort et que la cérémonie avait normalement lieu une année après le décès. C'est à ce moment-là que les ossements étaient placés dans le caveau familial. Une deuxième nous dit que le père n'était pas encore mort et que le candidat disciple demandait à rester au chevet de son père jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pour une durée indéterminée. Une dernière position nous dit que cette phrase ne signifiait pas que l'homme soit mort, mais c'était une locution courante pour dire « laisse-moi d'abord recevoir mon héritage ».« Laisse-moi d'abord recevoir mon héritage ». Dans ce troisième commentaire, on voit une recherche de sécurité. On pourrait comprendre, Seigneur, je suis prêt à te suivre, mais laisse-moi prendre quelques précautions au cas où. Seigneur, je suis prêt à tout faire, mais laisse-moi prendre quelques garanties. Ou encore, Seigneur, je veux bien te servir, mais seulement dans les conditions où je suis en sécurité et finalement où je n'ai pas besoin de dépendre de toi. Je vous ai déjà raconté comment, lorsque je m'apprêtais à venir à Strasbourg, que je voulais quitter la police nationale, j'avais préparé mon petit plan. Je m'étais dit, je vais faire une demande de disponibilité de la police. Comme ça, pendant 3 ans, je suis pasteur à l'EPI. Et dès qu'il y a le moindre problème, la moindre réflexion, pop, je repars et j'ai mon métier. Vous savez, le Seigneur, il aime bien faire une chose, c'est nous couper l'herbe sous le pied. Parce qu'en fait, j'essayais, je voulais servir le Seigneur, et je m'étais fait mon petit plan, puis tout le monde m'a dit, t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Le seul qui a été refusé, il est devant vous ce matin. Je voulais dépendre d'une sécurité, je voulais servir le Seigneur, mais en même temps, je voulais dépendre d'une sécurité au cas où. Je voulais un filet. Et le Seigneur, il m'a enlevé le filet. Il m'a dit, saute. Et je crois que c'est quelque chose que le Seigneur veut faire avec chacune de nos vies. C'est qu'on soit obligé de dépendre de lui. Qu'on soit obligé à chaque jour, à chaque instant, à chaque situation, de dépendre de sa grâce, de dépendre de notre relation, de dépendre d'une relation avec lui. C.S. Lewis explique pourquoi notre sécurité, donc il a écrit Le Monde de Narnia, c'est un écrivain chrétien qui a écrit beaucoup de livres, dont Le Monde de Narnia pour les enfants, mais dans son livre Le Problème de la Souffrance, il nous explique pourquoi notre sécurité ne doit dépendre que de Jésus seul. La citation va arriver. Le bonheur établi et la sécurité que nous désirons tous, Dieu nous les refuse par la nature même des choses de ce monde. Mais la joie, le plaisir, l'amusement, il les a répandus à profusion. Nous ne sommes jamais en sûreté, mais les occasions de rire ne manquent pas. Et nous connaissons des minutes de ravissement. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La sécurité à laquelle nous aspirons nous apprendrait à reposer nos cœurs en ce monde et opposerait un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques instants d'amour heureux, un paysage, une symphonie, une joyeuse fête entre amis, une baignade ou un match de football n'ont pas cet inconvénient. Notre Père nous réconforte au cours de notre voyage en nous offrant quelques auberges agréables, mais il ne nous encourage pas à les prendre pour la maison paternelle. Dieu place des auberges, Dieu place des oasis le long de notre chemin. Mais il ne veut pas que nous fixions nos regards sur ses bénédictions, il veut que nous fixions nos regards sur lui. Ne regardons pas aux bénédictions, mais regardons au Dieu de la bénédiction. Dépendons du Dieu de la bénédiction. Ne troquons pas, ne remplaçons pas notre sécurité en Jésus par quelque chose de moins que lui. Parce que ça reviendrait à placer un autre Dieu que Jésus sur nos cœurs. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de bénédiction, Dieu en accorde, mais que ces dernières ne doivent pas prendre la place de Dieu. Amen. Nous voyons dans Matthieu 4, 19, que Pierre et André ont quitté une activité professionnelle productive pour faire confiance à Jésus et le suivre. Ils se sont engagés sans savoir ce qui les attendait. Mais ils ont cru, mais ils ont placé leur confiance sans prétexte ni excuse. Quand Jésus les a appelés à le suivre, ils ont tout quitté et ils l'ont suivi. Jésus n'enseigne pas que nous devrions laisser nos responsabilités familiales, par exemple, mais il dévoile la nature réelle de nos motivations. Dans ce passage, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de sa famille. Mais il dévoile ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, ce qui nous pousse à faire nos choix. Cet homme, dans ce passage, semblait utiliser son père comme un prétexte pour différer son engagement avec Christ et pour assurer ses arrières. Ensuite, un troisième personnage entre dans l'histoire. Jésus seul doit être notre priorité. Jésus doit être notre zone de confort, Jésus doit être notre sécurité, mais en tant que chrétien, Jésus doit être notre priorité. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ici, nous voyons ce troisième individu qui veut suivre Jésus, mais il veut fixer ses propres priorités. Il détermine ce qui est le plus important à ses yeux. Il cherche à suivre Jésus, mais à sa façon. Il établit finalement son programme, son propre programme. Et la réponse de Jésus va être claire. Celui qui veut travailler pour Dieu, sans que Dieu soit sa priorité, ne peut travailler correctement pour lui. Celui qui veut travailler pour Dieu sans que Dieu soit la priorité de sa vie, il ne peut pas faire un bon travail pour le royaume de Dieu. John MacArthur commentera ce passage en disant qu'un laboureur qui regarde en arrière fait dévier son sillon. Dieu trace un sillon pour nos vues, pour nos vies. Une définition du péché, c'est manquer la cible, manquer le but. Quand on dévie de notre sillon, ça veut dire qu'on se retrouve dans le champ du voisin. Ça veut dire qu'on manque la cible que Dieu a prévue pour nous. Dieu a prévu un champ pour chacun d'entre nous. Mais le fait de regarder en arrière nous fait sortir de la zone où Dieu nous a placés. Et donc, nous sommes en train de pécher. Vous savez, le péché, ce n'est pas simplement faire quelque chose qui est moralement pas acceptable. On peut faire des bonnes choses et être en train de pécher. Parce que le but de Dieu, c'est que nous vivons pour lui. Ce n'est pas forcément de faire des bonnes ou des mauvaises choses. C'est de faire les choses que Dieu a prévues pour nous. Donc souvent dans notre tête, on dit « Ah, le péché, c'est toutes les choses qu'il ne faut pas faire. » Mais on peut faire des bonnes choses d'un regard humain qui sont péchées pour Dieu parce qu'on passe à côté de ce que lui a prévu pour nous. Et alors nous sommes en train de manquer la cible et alors nous sommes en train de manquer le but. Regarder en arrière, regarder à notre vie passée, nourrir des regrets, nous fait dévier du sillon que Jésus a tracé pour nous. Jésus attend de nous un engagement total et non un cœur partagé. Nous ne pouvons pas prendre quelques idées par-ci, par-là dans l'Évangile, dans l'enseignement de Jésus, et puis prendre d'autres quand ça nous chante. On ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas dire « je prends un petit peu de ci, et puis je prends un petit peu de ça, non ça je laisse de côté, c'est trop compliqué. » L'engagement avec Jésus demande un engagement total. L'engagement avec Jésus demande une consécration totale. Un de mes professeurs de l'école biblique, Gaëtan Brassard, dirait « la grâce de Dieu est illimitée, elle est imméritée, pardon, mais elle demande une consécration illimitée. La grâce de Dieu est une bénédiction imméritée, mais elle demande un engagement illimité de notre part. Ne laissons pas nos inquiétudes, ne laissons pas nos doutes, ne laissons pas nos peurs nous détourner du chemin que Dieu a pour nous. Une petite équation, inquiétude est égale reprendre. La confiance, et on l'a entendu dans le témoignage de Béatrice, c'est de relâcher. J'ai aimé cette intervention. Vous savez, je l'ai partagée avec le groupe la semaine dernière, mais quand j'étais jeune, j'étais loin de Dieu. J'étais loin de Dieu, mais ma mère, elle priait pour moi, tout ça, mais jamais mes parents m'ont imposé, quand j'avais l'adolescence, d'aller à l'église, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Tous les amis que j'ai vus, à qui on a imposé d'aller à l'église, dès qu'ils ont eu la majorité, ils se sont barrés. Ils se sont barrés, parce qu'ils ont été écœurés et dégoûtés. Mes parents m'ont laissé faire, par contre, ma mère, ma sœur, mes parents priaient pour moi. Et lorsque Jésus est venu saisir mon cœur, je sais pourquoi j'ai répondu à son appel. Parce que c'est lui qui est venu me chercher. L'évangile se propose, il ne s'impose pas. L'évangile se propose, il ne s'impose pas. Ne laissons pas nos inquiétudes nous détourner. L'inquiétude va chercher à reprendre, l'inquiétude va chercher à contrôler. Les peurs vont chercher à contrôler. La confiance va relâcher et dire « Seigneur, je sais que tu sais ce que tu fais avec mes enfants, avec ma famille, avec mon conjoint. » Je relâche et je fais confiance. Vous savez, quand on est inquiet, on va avoir tendance justement à reprendre, à chercher à reprendre ces rênes de nos vies. Mais lorsqu'on va faire confiance à Dieu, on va pouvoir relâcher. Vous connaissez ce passage de Philippiens 4, 6 à 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » À qui ? À Dieu. Par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Christian Robichaud a fait un petit commentaire de ce passage. Et il dit, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Eh bien, le rien, ça englobe quoi ? Ça englobe tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation dans ta vie qui n'échappe à ce tout où Dieu te demande de t'inquiéter de rien. Aucune inquiétude n'est la bienvenue dans nos pensées. Nous pouvons faire connaître à Dieu tous nos besoins. Mais lorsque la prière est terminée et que les larmes sont essuyées, nous ne devons pas reprendre le fardeau que nous avons laissé. Le problème, c'est que souvent, on dépose plein de sujets à Dieu dans la prière, moi le premier. Puis dès que c'est fini, je commence à reparler, puis je vais voir un truc. Ah, puis t'as vu cette situation, et puis comment on va faire? On vient de prier pour ça. Et puis on commence à se recharger et à se polluer l'esprit avec toutes ces craintes, tous ces questionnements, et finalement, on n'est jamais libre. Alors que la prière, c'est déposer et croire que Jésus est capable. Amen. Ne reprenons pas le fardeau que nous laissons à Dieu lorsque nous prions. Deuxième point ce matin, c'est que suivre Jésus, c'est être prêt à vivre ce qu'il a vécu. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être son disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Après nous avoir parlé de renoncer à nous-mêmes, Jésus nous invite à porter notre croix. Porter sa croix, ce n'est pas une recherche volontaire de souffrance, on n'est pas fou, mais c'est un engagement quotidien et sans réserve en faveur de la volonté de Dieu et en refusant les modes de fonctionnement de notre société. C'est finalement croire que notre vieille nature corrompue par le péché a été crucifiée avec Jésus-Christ, qu'elle est morte et que maintenant c'est Christ qui vit en nous. Ça se traduit concrètement par le fait de ne pas, par exemple, rendre le mal pour le mal. C'est une invitation à mourir à nous-mêmes dans la société. Si quelqu'un me fait une crasse, je vais vouloir lui en rendre une. Jésus tendait la joue à ceux qui lui faisaient du mal, à ceux qui lui crachaient au visage, à ceux qui le dénigraient, à ceux qui disaient des mensonges sur sa vie. C'est une invitation à vivre comme Christ a vécu. Jésus a accepté d'accomplir la volonté du Père en mourant à la croix pour nous, alors que ce n'était pas forcément son aspiration humaine. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémané, il dit « Seigneur, si cette coupe pouvait passer à côté de moi. » Mais il finit par dire « Ce qui est important, ce n'est pas que ce soit ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Mais la tienne. Il l'a fait parce que son regard n'était pas porté sur lui-même et sur ses petites aspirations, mais son regard était porté sur chacun d'entre nous ce matin dans ce lieu et partout de la terre, durant toutes les générations. Il était porté sur ceux pour qui il allait offrir et donner sa vie. Et elle était fixée sur la volonté de son Père qui était dans les cieux. Lui qui était Dieu, qui pouvait tout revendiquer, il a accepté volontairement de se soumettre à la volonté de son Père, afin que ça puisse produire du fruit dans nos vies encore aujourd'hui en 2017. Amen. Nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes plutôt que de renoncer à Jésus. Nous devons être plutôt prêts à renoncer à nous-mêmes que de renoncer à Jésus. Il y a un livre intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec Mathieu au téléphone. Le livre s'appelle « Dieu est-il homophobe ?» C'est un livre qui a été écrit par un pasteur qui combat avec l'homosexualité. Et en substance, il dit qu'il aime plus Jésus que son homosexualité. Il sait que c'est son combat et il parle de ça, mais il se soumet volontairement à Dieu, parce qu'il aime plus Jésus que sa condition sexuelle. Et il se soumet volontairement à ça. Et il est là pour encourager. Il se soumet. Vous savez, certains disciples connaîtront à la suite de Jésus le sort qu'il a connu et subiront le martyr. Il suffit un petit peu d'aller à la réunion de prière avec notre frère Bruno Le Maire, juste pour entendre ce que des chrétiens sont en train de vivre, des chrétiens enfermés dans des containers à 50 degrés, sans rien. Certains subissent le martyr, d'autres subissent l'opposition des proches, d'autres subissent l'opposition de la société, du mépris, de la calomnie, etc. Pierre, par exemple, a été crucifié la tête en bas à sa demande car il se sentait indigne de mourir comme Jésus. Jacques, fils d'Alphée, a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu, il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. André est mort, crucifié, après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Jacques, fils de Zébédée, est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a été flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Thomas est mort transpercé par une lance. Matthieu est mort tué par l'épée. Jude aurait subi le martyr en Perse. Simon le Zélote a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyr par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos, où il rédigea l'Apocalypse, il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Jésus ne nous promet pas une vie en dehors de la souffrance, mais sa présence au sein de notre souffrance. Alors, bien sûr, tous ne mourront pas comme ça, entendez-moi bien. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous avons une destinée individuelle et prévue par Dieu. Ne tombons pas dans la comparaison et la jalousie. L'évangile de Jean nous relate une histoire. C'est Jésus qui parle, et il parle à Pierre, il dit « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il dit « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait, l'apôtre Jean, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Et en le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Mais toi, suis-moi. » Alors que Jésus révèle à Pierre par quelle mort il va mourir, ce dernier souhaite savoir ce qui va arriver à son coéquipier, à Jean. Et Jésus va lui dire en substance que peu importe ce qui peut lui arriver à lui, ce qui est important pour Pierre, c'est qu'il suive Jésus. Ce qui est important pour Pierre, c'est qu'il suive et qu'il marche dans ce que Jésus a prévu pour lui. Ne nous comparons pas. Ne regardons pas jalousement à ce que les autres, ils ont. Mais demandons à Dieu la grâce et la force de vivre ce qu'il a tracé pour nous. Vous savez, toute cette vie de renoncement ne peut pas se faire naturellement. Nous avons besoin d'être connectés avec le ciel pour recevoir les forces surnaturelles. Nous avons besoin d'être connectés avec le ciel pour recevoir les forces surnaturelles de Dieu, afin de vivre ce que Jésus a prévu pour nous. Troisième point ce matin, c'est que suivre Jésus nous permet de vivre la vraie vie. Luc 9, 24, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Ce verset nous explique que si nous cherchons à éviter les conséquences de notre vie avec Jésus, alors nous perdrons la vie véritable. Mais qu'en assumant notre attachement et notre dépendance en Jésus, nous vivrons la vie véritable et nous nous réaliserons pleinement. Avoir la paix véritable, avoir l'harmonie avec Jésus, est ce qu'il y a de primordial. Lorsque nous essayons de trouver, de vivre ou trouver du plaisir en dehors de Dieu, il y a un vide profond que rien ne peut combler. Blaise Pascal disait qu'il y a en chaque personne un vide en forme de Dieu. Parfois, nous avons le goût de tout lâcher. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin, mais des fois, on a le goût de tout lâcher, on a le goût de tout abandonner. Mais vous savez, le vide de l'absence de Jésus sera finalement une douleur bien plus profonde que les difficultés que Jésus permet que nous traversions. Combien de fois j'ai voulu abandonner? Combien de fois j'ai dit « c'est bon, j'arrête tout ça ». Mais il se passait quelque chose ici, une absence. Et quand on revient à Dieu et qu'on dit « ok Seigneur, je me repens, je reviens devant toi », même si les circonstances extérieures sont difficiles, on est animé d'une puissance intérieure. Des fois on a le goût de tout lâcher, mais le vide de Jésus en nous nous sera bien plus douloureux que sa présence à nos côtés au sein de nos épreuves et au sein de nos difficultés. Matthieu 4, 19 nous dit, Jésus appelle et il dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai. Le verset de Matthieu ne nous dit pas que nous devons accomplir plein de choses par nos propres efforts pour suivre Jésus, mais il nous dit que lorsque nous répondons à l'appel de Jésus à le suivre, il fera. Suivez-moi et je ferai. C'est son œuvre de transformation en nous. David Platt dira: au fur et à mesure que les disciples suivent Jésus, il transforme tout en eux. Leurs pensées, leurs désirs, leurs volontés, leurs relations et au plus profond, leur raison même de vivre. Amen. Lorsque Jésus est dans la barque de nos vies, cela fait toute la différence. Nous sommes soutenus, nous sommes conseillés, nous sommes dirigés par lui. Vous savez, Dieu a fait une promesse à ceux qui le suivent. J'aime ce verset du psaume 32, j'aime ce psaume d'ailleurs. Jésus dira, enfin, la parole de Dieu nous dira, Dieu parle et nous dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Les projets de Dieu sont premièrement des projets de paix, un sentiment de bien-être, un sentiment de complétude, de paix intérieure avec lui et avec nous-mêmes. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est profonde, sécurisante et confortable. On retrouve ce type de paix dans un passage que nous connaissons bien dans les Béatitudes, qui dit: « Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux leur appartient. » Ceux qui vivent pour Dieu vivent la paix et un ciel surnaturel dans leur cœur, bien qu'ils puissent vivre l'enfer dans la chair. Heureux. Le terme heureux, c'est le terme makarios, qui peut signifier « est béni celui qui ». Est béni celui qui est persécuté à cause de mon nom, parce qu'en fait, il est en train de vivre le royaume des cieux. Il vit le royaume de Dieu. Il est possible de vivre cette paix surnaturelle intérieure alors que nous vivons l'enfer à l'extérieur. Projet de paix, Jésus a également un projet d'avenir. Et nous le voyons dans ce passage, il nous indique une voie que nous devons suivre. Je te montrerai la voie. Il a un chemin à tracer. Même si ici-bas, nous avons à endurer des combats et des difficultés, nous savons qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne et que nous sommes vainqueurs avec lui. Amen. Nous sommes dans sa victoire. Il nous entraîne, il nous embarque dans sa victoire. Jésus est le grand vainqueur de l'histoire. Le livre de l'Apocalypse qui fait peur à tant de gens, qui entretient l'imagination des cinéastes, nous révèle que Christ est le gagnant de l'histoire. C'est ce que Timothée nous avait partagé, Timothée Minard, lors du jeûne et prière ici, il y a quelques mois, de cette victoire de Christ dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, Satan et ses démons seront bientôt complètement et définitivement renversés. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes. Amen. Mais en attendant, le ciel peut déjà commencer ici, dans nos cœurs aujourd'hui. Les Actes des Apôtres nous révèlent comment Étienne, disciple de Jésus, voyait la gloire de son Seigneur. Il voyait Jésus debout, alors que ses ennemis étaient en train de se ruer sur lui, étaient en train de le lapider. Souvent, on a l'image dans la Bible de Dieu qui est assis sur son trône. Et ce qui est intéressant dans le livre des Actes, c'est que Jésus est debout pour accueillir son serviteur. Il est en train d'expérimenter une paix surnaturelle, il voit le ciel alors qu'il est en train de prendre des coups, alors qu'il est en train de subir la violence des hommes. Il est en train de vivre une manifestation du royaume de Dieu où Jésus se met debout pour accueillir son serviteur fidèle. Jésus veut nous instruire, Jésus veut nous conduire. Il veille sur nous, il a une vie de témoin de ce que sa grâce fait en nous. Il a une vie pour nous de témoin de l'Évangile. Est-ce qu'on le croit ce matin? Ouais, je vous l'avais dit que les amen seraient petits ce matin. C'est pas toujours facile. Même moi, quand on étudie ce texte, ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher et dire: Seigneur, j'ai besoin de ta grâce parce que je ne suis pas capable. Humainement, je ne suis pas capable de vivre ça. En suivant Jésus, nous pouvons vivre sa puissance au quotidien. Vous savez, nos problèmes, ce n'est pas nos circonstances, mais c'est notre manière de les aborder. Le problème, ce n'est pas les circonstances, c'est notre manière, notre cœur pour les aborder. Affrontons nos vies avec Jésus comme guide qui nous assure de son aide au quotidien. Ce message, et je n'ai pas envie de vous plomber le moral pour la semaine qui arrive, ne dit pas que la vie chrétienne sera forcément galère. Comme on l'a vu tout à l'heure avec C.S. Lewis, dans la vie, il y a des moments de joie et des moments de peine. Dans la vie, il y a des saisons de victoire et des saisons plus difficiles. Dans la vie de tous les jours, il y a l'été. Et puis, je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, mais le mois de septembre commence déjà à être froid. Il y a des saisons de vie, mais on sait qu'après l'hiver, la vie reprend. D'ailleurs, la vie reprend déjà pendant l'hiver, tout doucement, à l'intérieur. C'est des choses qu'on ne voit pas. Et puis ça, d'un coup, ça sort. Le printemps est là. Notre objectif à chacun ce matin, ce n'est pas de rechercher le bonheur, mais c'est de rechercher et suivre Jésus. Amen. On peut se lever, on va prier, l'équipe de louange va venir. Et j'aimerais qu'on puisse chanter, reprendre ce chant qui dit « Jésus te suivrai » en considérant toutes ces choses ce matin. Et dire « Seigneur, je comprends que j'ai besoin de marcher à ta suite, que j'ai besoin de ne pas tomber dans des comparaisons, regarder ce que l'un et l'autre peuvent avoir. Mais Seigneur, avec ma vie, avec ce que je suis si imparfait, je veux entrer dans ce que toi tu as prévu pour moi. » Je veux que ma vie serve à accomplir tes plans. Je veux que ma vie serve à accomplir tes projets. Je veux que ma vie soit un instrument pour le lieu, l'endroit, la famille, l'église où tu m'as placé. Jésus, je te suivrai. Père éternel, je veux te prier ce matin et te remercier pour cette parole. C'est vrai, humainement, elle n'est pas facile à saisir, elle n'est pas facile à vouloir. Et Seigneur, ce que je te prie ce matin, c'est que tu accordes mon vouloir au tien. Que tu m'aides, Seigneur, à ne pas chercher ma volonté, mais la tienne. Ta parole déclare que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Alors Seigneur, on veut t'inviter ce matin à régner. Nous voulons répondre ce matin simplement à cet appel que tu nous lances à plusieurs reprises dans la parole de te suivre. Seigneur, je veux me lever encore ce matin et te dire, je ne suis pas capable par moi-même, mais je m'attends à tes forces, Jésus. Alors que nous entrons dans une nouvelle saison pour l'Église, quelle est ma place ce matin? Et je vous pose la question, quelle est ma place dans cette nouvelle saison? Je suis convaincu que le Seigneur appelle certains au milieu de nous, peut-être à se lever pour un service, peut-être tu es envahi de doutes, de craintes, de peurs. Seigneur t'appelle ce matin à venir voir les responsables de l'Église, quelque chose qui bouillonne sur ton cœur. À venir confronter ce qu'il y a sur ton cœur avec l'équipe de responsables ici et de voir la place que tu peux prendre pour servir le royaume. Pour d'autres, ce matin, c'est peut-être un appel à simplement suivre Jésus et à lui abandonner ta vie. Peut-être tu dis, mais être chrétien, c'est trop difficile. Ce n'est pas par tes propres forces, ni par ta puissance, mais c'est simplement par l'Esprit de Dieu que Dieu va pouvoir marcher en disciple de Christ. Que ce matin, nous puissions prendre ce chant tous ensemble pour individuellement dire, Seigneur, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien regarder. Tu as souffert pour me sauver. Et en réponse à cet appel ce matin, je veux te suivre. Jésus, je te suivrai.